VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, Le Monde aujourd'hui, édition du mercredi 8 novembre 2017. En direct de Washington, Idrissa Sidoulia et Anne Albertson pour commencer les titres.
En République centrafricaine, un millier d'ex-combattants Séléka ont été sommés d'évacuer trois casernes qu'ils occupent à Bangui.
Au Mali, confirmation de la mort de soldats maliens capturés par les djihadistes dans un raid de la force française Barkhane en octobre.
Au Libéria, quatre partis tentent de s'unir pour appuyer au second tour le vice-président sortant Joseph Boakai contre l'ancienne star du foot George Weah.
Ici aux États-Unis, grande victoire des candidats démocrates au poste de gouverneur en Virginie et dans le New Jersey, un an après l'élection du républicain Donald Trump.
Le président Trump qui a lancé ce matin un avertissement clair à Pyongyang dans un discours devant l'Assemblée nationale sud-coréenne.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
En République centrafricaine, plus de 1200 anciens combattants de l'ex-Séléka, occupant trois casernes dans Bangui, ont été sommés de partir par le gouvernement. Certains refusent d'obtempérer au moment où l'ONU veut augmenter ses effectifs de paix dans le pays. John Lyndon.
En décembre 2013, près de 3000 rebelles de l'ex-Séléka sont entrés à Bangui pour chasser le président François Bozizé et occuper des casernes militaires. Depuis le départ en exil de Michel Djotodia, certains combattants sont rentrés chez eux, mais environ 1200 occupent toujours trois casernes. Ils refusent de partir malgré une enveloppe de 100 000 francs CFA offerte à chacun d'eux par le gouvernement. Ces membres de l'ex-Séléka exigent 2 millions de francs CFA pour intégrer le processus de désarmement soutenu par l'ONU. Le Conseil de sécurité est appelé le 15 novembre à renouveler le mandat de la MINUSCA. Antonio Guterres, patron de l'ONU, a demandé un renfort de 900 casques bleus supplémentaires. Ce renforcement n'a toujours pas reçu l'adhésion des États-Unis, plus grand contributeur de fonds des Nations Unies.
Au Cameroun, des sources concordantes ont confirmé hier qu'un gendarme camerounais a été tué lundi dans une localité du nord-ouest anglophone lors d'une traque de séparatistes présumés. Des individus suspectés d'être des sécessionnistes ont abattu un gendarme à Diakéri dans le nord-ouest, a confirmé une source proche des autorités régionales jointes dans la région depuis Yaoundé. L'information a été confirmée à l'AFP par une source gouvernementale. C'est la première fois qu'un gendarme est abattu de sang-froid depuis le début de la crise issue de la contestation anglophone. Il n'était pas possible dans l'immédiat de confirmer l'identité des hommes ayant abattu le gendarme.
Au Mali, un responsable du ministère de la Défense et un proche des militaires morts a affirmé hier à l'AFP que des soldats maliens capturés par les djihadistes font bien partie des 15 tués par un raid de la force française Barkhane en octobre. De son côté, l'état-major français des armées a réitéré que l'opération dans la nuit du 23 au 24 octobre avait visé, sans erreur possible, un camp d'entraînement terroriste près d'Abeibara, dans le nord-est, relevant du groupe Ansardine du djihadiste malien Yag Agali, assurant qu'à aucun moment la présence de militaires maliens n'y avait été établie. Selon un communiqué, le ministre de la Défense, Tiena Koulibaly, avait reçu le 31 octobre l'ambassadrice française et le commandant de Barkhane au Mali à la suite de l'opération au cours de laquelle des militaires maliens détenus par des terroristes ont trouvé la mort.
Toujours au Mali, 195 kilos de cannabis ont été saisis à Bamako, la capitale, dans un camion en route pour Dakar au Sénégal. La valeur marchande de la drogue saisie est d'environ 500 millions de francs. CFA. Le cannabis était caché, entre autres, dans des caisses servant à des réservoirs de secours. Le chauffeur et son apprenti ont tous deux été arrêtés et seront présentés au procureur. Depuis janvier, la brigade mobile d'intervention du Mali a saisi 319 kilos de chanvre indien, selon notre correspondant Kassim Traoré.
En Guinée, plusieurs centaines de professionnels des médias guinéens ont manifesté hier à Conakry, scandant « pas de démocratie sans presse indépendante. Selon notre correspondant Zakaria Camara, les journalistes guinéens dénoncent les dérives du pouvoir depuis l'agression de journalistes par des gendarmes quelques jours auparavant. Ces journalistes frappés, humiliés et dont les matériels de reportage ont été détruits, étaient partis réclamer, dit Zakaria Camara, la libération du patron de Guingamp FM, une radio privée accusée de diffusion de rumeurs sur la mort du président Alpha Condé. Les manifestants parlent d'acharnement sur les médias privés.
Au Liberia, quatre partis ont mené hier des pourparlers pour unir leurs efforts afin de soutenir la candidature à la présidence du vice-président sortant Joseph Boakai face à celle de l'ancienne star du foot George Weah. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Robert Fadé, président du parti de l'unité de Joseph Boakai, a expliqué que ces discussions concernent une union de quatre partis, tous arrivés derrière George Weah. Ils disent vouloir s'unir pour défendre la démocratie. Nous pensons clairement que Weah ne peut pas diriger ce pays, a ajouté M. Fadé. Une conférence de presse du parti de George Weah, prévue hier, a été annulée. Les discussions se sont déroulées le jour où devait en principe se tenir le second round de la présidence entre George Weah et Joseph Boakai. Le processus électoral a toutefois été suspendu par la Cour suprême qui a ordonné à la Commission électorale nationale d'examiner des recours avant de fixer une nouvelle date pour le second tour. Arrivé en troisième position, derrière George Weah et Joseph Boakai, Charles Brumskine, l'un des plaignants, a dénoncé des fraudes et des irrégularités lors du premier tour. Le report du second tour fait peser des incertitudes sur la première transition démocratique dans ce pays qui a connu l'une des plus atroces guerres civiles du continent.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, deux candidats démocrates ont été élus gouverneurs mardi, battant ceux du parti républicain de Donald Trump, qui a été élu il y a un an aujourd'hui à la Maison-Blanche. Les précisions de Jean-Roger Bion.
Les États-Unis compteront bientôt un gouverneur démocrate de plus, avec l'élection dans le New Jersey de Phil Murphy, qui était favori pour succéder à un républicain qui a soutenu avec enthousiasme Donald Trump l'an dernier, Chris Christie. Et en Virginie, une élection à suspense s'est conclue par la victoire du démocrate Ralph Northam, qui a battu sans trop de difficultés le républicain Ed Gillespie, un ancien classique du parti reconverti en héros des idées populistes et nationalistes du président américain. M. Northam succédera à un autre démocrate. La soirée a pris des allures de revanche pour les démocrates, qui n'avaient réussi à conquérir aucun siège lors des cinq élections partielles au Congrès tenues depuis le début de l'année. À New York, le maire et le démocrate sortant, Bill de Blasio, a facilement décroché un second mandat, reléguant à 35 points derrière lui, selon les résultats partiels, la candidate républicaine Nicole Malliotakis, une élue de l'Assemblée de l'État de New York. De son côté, le maire démocrate de Boston, Marty Walsh, a été réélu. Dans ces scrutins, les enjeux locaux se mêlaient à une sorte de référendum sur le locataire de la Maison-Blanche, ou du moins ses idées sont parties. Mais les démocrates, en manque de bonnes nouvelles, ont déjà revendiqué un rejet net du milliardaire qui fête donc aujourd'hui mercredi le premier anniversaire de son élection.
Et la seconde partie de cette édition sera essentiellement consacrée à cet anniversaire.
En Corée du Sud, le président américain Donald Trump a appelé aujourd'hui le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un à ne jamais sous-estimer la détermination de l'Amérique et aussi à renoncer à son programme nucléaire. Dans un discours musclé devant l'Assemblée nationale sud-coréenne, le président américain a dénoncé avec force détail les horreurs d'une dictature cruelle. Il a martelé que le temps de la force était venu, soulignant que les États-Unis ne cherchaient pas l'affrontement militaire, mais ne reculeraient pas s'il devenait nécessaire. Ne nous sous-estimez pas, ne nous mettez pas à l'épreuve, a-t-il tourné sous des applaudissements nourris, quelques heures après avoir tenté sans succès en raison du temps de se rendre dans la célèbre zone démilitarisée séparant les deux pays.
Les premiers ministres espagnols et belges Mariano Rajoy et Charles Michel doivent s'exprimer aujourd'hui après l'appel du président indépendantiste destitué de Catalogne, Carles Puigdemont, à l'Union européenne, lui enjoignant de renoncer à soutenir un coup d'État contre sa région espagnole. Les deux dirigeants doivent chacun prendre la parole devant leur parlement sur la crise catalane, la pire qu'ait connue l'Espagne en 40 ans de démocratie. Les associations indépendantistes et un syndicat ont parallèlement appelé à une grève générale en Catalogne, avant une grande manifestation prévue samedi, car les Puigdemont, qui est à Bruxelles depuis le 30 octobre, fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen à la demande de la justice espagnole.
Les États-Unis ont appelé hier la communauté internationale à réclamer des comptes à l'Iran après que l'Arabie Saoudite a accusé son grand rival régional d'agression militaire directe. Les accusations saoudiennes ont été lancées à la suite du tir samedi d'un missile en direction de l'aéroport international de Riyad par les rebelles houthis au Yémen, accusés d'être soutenus militairement par Téhéran, qu'il dément. Les rebelles ont de leur côté menacé de faire de toutes les infrastructures importantes saoudiennes des cibles potentielles, exacerbant les tensions entre les deux puissances régionales, l'Arabie saoudite sunnite et l'Iran chiite.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Blanche Sanou.
Au Ghana, la Corée du Sud injecte 9 millions de dollars dans la riziculture de la région du centre. Selon Owusu Afriyi-Akoto, ministre de l'Agriculture, le choix de cette zone s'explique par ses potentialités de production à grande échelle, qui non seulement est destinée à des fins de consommation, mais aussi pour l'exportation. En rappel, le pays dépend à hauteur de 70% des importations de riz, car la culture se pratique essentiellement de façon semi-intensive par les petits exploitants dans les zones de bas-fonds. Au Cameroun, la Société nationale des hydrocarbures a généré 166 milliards de francs CFA de recettes pétrolières. Cet argent relève de la vente du gaz et du pétrole au cours du premier semestre de l'année, selon les données de cette entreprise. Au cours de la même période, la production pétrolière a atteint 14,5 millions de barils, tandis que la production du gaz est plus de 6 900 millions de pieds cubes. Ces recettes pourraient augmenter au cours du second trimestre en raison de la hausse de la production. Le Burkina Faso vient de bénéficier de 39,7 milliards de la Banque Ouest-Africaine de Développement pour la construction de barrages de routes et un accès à l'énergie. Cet appui a été officialisé par le président de la BOAD, Christian Adovlende, lors de son séjour à Ouagadougou. À ce jour, le montant total mobilisé par la BOAD au profit du Burkina Faso est évalué à 476 milliards de francs CFA pour 142 opérations.
À présent, les sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Coupe du Monde 2018, cascade de blessés pour la Côte d'Ivoire.
Et oui, Marc Wilmots, le sélectionneur de la Côte d'Ivoire, qui veut une équipe pour aller au combat pour ce match décisif contre le Maroc. Ce sera samedi dans le cadre des qualifications pour le Mondial 2018. Problème pour les Ivoiriens, ils devront sans doute se passer des services de Gervinho, Jonathan Kodja ou encore Joris Niagnon. Les Marocains, eux, arriveront sur place aujourd'hui avec à leur tête, vous le savez, Hervé Renard, qui n'est autre que l'ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Marc Wilmots, l'actuel sélectionneur des éléphants, a donné une conférence de presse hier à Abidjan. Il se dit serein. On l'écoute.
Au moins maintenant, on sait ce qu'on doit faire. On doit gagner. On ne doit pas calculer. Et moi, je suis content de ne pas calculer. Parce que ça, c'est la pire des choses qui peut vous arriver. Mais la pression, évidemment, elle est sur les deux, puisque les deux pays peuvent se qualifier. Donc la peur, chez nous, elle n'existe pas. On est à la maison. On respecte. Ça, c'est différent. On a besoin d'une équipe qui va aller au combat. Et que tout le monde soit apte à jouer 90 minutes à 200%. Et de donner tout pour son pays et sa nation. Et moi, j'en appelle aux Ivoiriens de venir au stade, encourager son équipe pour passer et pour arriver en Coupe du Monde.
Le Namibien Fredericks, suspendu par le Comité international olympique.
Oui, le Comité international olympique qui annonce la suspension de son membre, Frankie Fredericks, le Namibien, mis en examen, vous le savez, pour corruption passive et blanchiment de corruption par la justice française la semaine dernière, et ce dans le cadre d'une enquête sur l'attribution des Jeux olympiques d'été Rio 2016.
Dopage, cette fois au Kenya.
La Kenyane Jemina Sumgang, première championne olympique de marathon de l'histoire de son pays, c'était également à Rio en 2016. Eh bien, l'athlète a été condamnée à 4 ans de suspension pour un contrôle positif à l'EPO. C'est ce qu'a annoncé hier la Fédération Kenyane d'athlétisme. Sumgang avait déjà connu les affres d'une suspension de 2 ans pour dopage. Cette sanction avait été ramenée à 1 an en appel. C'était en 2012. Elle avait pris également un stéroïde interdit. Elle avait alors affirmé qu'il provenait d'une injection destiné à se soigner. Allez, Grissa, avec vous, les résultats de la NBA, le basket nord-américain cette nuit.
Cleveland Cavaliers et Milwaukee Bucks, 124-119. New Orleans Pelicans et Indiana Pacers, 117-112. Dallas Mavericks et Washington Wizards, 113-99. New York Knicks et Charlotte Hornets, 118-113. Toronto Raptors et Chicago Bulls 119-114, San Antonio Spurs et LA Clippers 120-107, Denver Nuggets et Brooklyn Nets 112-104 et Philadelphia Sixers et Utah Jazz 104-97.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sejudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Ici aux États-Unis, grande victoire des démocrates en Virginie et au New Jersey, où se tenaient hier des élections pour les postes de gouverneur de ces États. Que signifient ces victoires dans l'ère Trump, ces élections ayant été considérées comme un référendum sur la gestion du président Donald Trump, élu il y a exactement un an à la Maison-Blanche? Le professeur Souleyman Béchir Diagne de l'Université Columbia, joint à New York.
Oui, comme vous venez de l'indiquer, effectivement, c'est quasiment l'anniversaire de son élection. Et voilà deux élections de gouverneur qui sont autant de victoires et des victoires beaucoup plus faciles, en fait, que prévu pour les démocrates. Cela est d'excellent augure, évidemment, pour les démocrates qui ont les yeux fixés sur les élections prochaines de 2018, un mandat, et qui, évidemment, ont salué cette victoire-là comme étant un signe annonciateur du redressement du Parti démocrate.
Le président Trump a lui-même réagi en disant que Ed Gillespie a travaillé dur mais ne s'était pas pleinement associé à moi ni à mes idées. Il se trouve que Gillespie est un membre de l'establishment, mais il a trouvé une solution assez originale quand il s'agit de Donald Trump, adopter ses idées et ses positions tout en le tenant à l'écart. Et on pensait que ça allait marcher.
Ben oui, justement, alors, on a appelé ça du Trumpisme sans Trump. C'est Bannon, d'ailleurs, qui a été conseiller de Donald Trump, qui a utilisé cette expression. Justement, parce que comme il a fait du Trump, surtout dans la dernière partie de sa campagne, il a d'autant plus transformé cette élection en une sorte de référendum pour ou contre Trump. Parce que, précisément, il a fait campagne sur des thèmes qui sont les thèmes sur lesquels Trump avait lui-même construit sa victoire. Et par conséquent, d'une certaine façon, c'est le Trumpisme lui-même qui était en jeu. C'est ce que les démocrates ont vu. Alors, il est normal que le président Trump ait tweeté ce qu'il a tweeté, parce que justement, il fallait se défendre de cette idée et au contraire, de dire que ce n'était pas ce que Gillespie n'avait pas assez, ne s'était pas assez engagé dans la ligne qu'il représente, qu'il a perdu. Donc c'est vraiment une manière de regarder, de tenir un certain tour à l'élection pour essayer d'en détourner la signification.
Et de façon générale, comment est-ce que les démocrates pourraient-ils maintenant exploiter ces deux victoires? Parce que quand même, ils ont perdu aussi dans d'autres élections, comme en Géorgie, il n'y a pas longtemps.
Oui, alors que ces élections avaient été annoncées comme étant des tests, ils avaient perdu ces tests-là. Cette fois-ci, je crois qu'ils vont analyser de manière très précise ce qui s'est passé en Virginie. C'était un candidat relativement modéré qui a gagné. Donc c'est une indication, je crois. Ça va être une indication pour les démocrates. C'est la meilleure manière possible de choisir leur propre candidat et leur discours pour pouvoir espérer gagner les élections prochaines.
Le professeur Souleyman Béchir Diagne de l'Université Columbia à New York.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Donc, il y a un an, le républicain Donald Trump battait à la surprise générale la démocrate Hillary Clinton, était ainsi élu 46e président des 45e président des États-Unis. Un an après, quel bilan, quelle perspective? Le point avec Dilly Dico.
Il y a un an, Donald Trump a créé la stupéfaction en gagnant l'élection présidentielle, une victoire à laquelle, semble-t-il, peu de gens s'attendaient.
Je m'adresse à tous les républicains, aux démocrates et aux indépendants américains. Il est temps pour nous de nous rassembler pour former un peuple uni.
Lors de son investiture, Donald Trump s'est engagé auprès de la classe ouvrière à laquelle il doit largement sa victoire.
Les politiques n'ont cessé de s'enrichir pendant que le chômage augmentait et les usines fermaient. Cette destruction de l'Amérique prend fin ici, dès cet instant.
Selon l'analyste John Fiery, l'élection de Donald Trump était synonyme de changement sans précédent dans la politique américaine.
Désormais, la base électorale républicaine est constituée de personnes ayant voté pour Trump. Cet électorat considère une attaque sur Trump comme une agression personnelle.
La présidence de Donald Trump a commencé par des moments difficiles, de nombreuses manifestations et une controverse sur le nombre de personnes venues assister à sa prestation de serment. Sean Spicer, ancien porte-parole de la Maison Blanche au sujet de cette estimation.
This was the largest audience to ever witness an inauguration, period.
Il s'agit de la plus grande foule venue assister à une investiture, point barre, autant par le nombre d'individus sur place à Washington que par l'audience internationale.
Le président a toutefois connu un succès important dès le début de son mandat avec la nomination du juge Neil Gorsuch à la Cour suprême. Il a aussi reçu des éloges pour sa gestion de l'économie marquée par une expansion du marché boursier et ses victoires militaires contre le groupe État islamique. Mais Donald Trump et ses alliés ont aussi essuyé des revers avec le rejet par le Sénat de la nouvelle loi sur la santé proposée par les Républicains. Cet échec a considérablement retardé le programme du président, Alan Lichman de la American University.
Aucun parti contrôlant à la fois le Congrès et la Maison Blanche n'a eu des résultats aussi mitigés que l'administration Trump et les Républicains.
Les nombreux tweets du président ont aussi constitué une distraction face aux véritables enjeux. De même que ses propos controversés sur la manifestation violente de Charlottesville en Virginie.
Il y a de très bons individus dans les deux camps qui se sont opposés.
Le style tranchant du président lors de ses multiples rassemblements a servi à galvaniser son électorat et la plupart des républicains au Congrès ont pris note. Mathieu Dalek de l'Université George Washington.
Le fait que le président se maintienne à un taux d'approbation allant des 35 à 38% empêche les républicains de le défier ouvertement.
Cependant, les récentes inculpations judiciaires dans l'enquête sur l'ingérence russe menacent de ternir la Maison Blanche et ravivent les inquiétudes sur les orientations futures du président. Larry Sabato, de l'Université de Virginie.
Bon, peut-il renverser la vapeur? Oui. Peut-il être réélu? Certainement. Parfois, le plus dur est de se faire élire la première fois. Mais il se rend lui-même les choses plus compliquées, tant dans la réalisation de son programme, dans le maintien d'une majorité républicaine au Congrès, que pour une possible réélection.
Il va sans dire que l'élection de Donald Trump constitue un tournant dans la politique américaine, mais son impact sur les États-Unis et le monde reste à ce jour une incertitude.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Un an après son accession à la Maison-Blanche, ou plutôt un an après son élection à la Maison-Blanche, quelle réalisation concrète pour Donald Trump? Qu'a-t-il accompli? Quels sont ses points faibles? Pour une analyse de son bilan, Morgan Guiriec a joint Emilio Viano, professeur de sciences politiques à l'American University de Washington.
Trump a fait bien des promesses que quand il arriverait à la Maison Blanche, il y aurait une révolution aux États-Unis. En réalité, il n'a pas conclu beaucoup. Sa présidence jusqu'à maintenant a causé une remise en cause de l'état de droit et de liberté, une déstabilisation de l'alliance de grands démocraties, comme par exemple l'OTAN, la valorisation extrême du nationalisme.
Alors, de nature à satisfaire son électorat, l'économie qui semble se porter mieux.
Si on est une personne qui approuve Trump, on est peut-être un peu content parce qu'on peut dire qu'il a essayé de limiter l'immigration illégale. Dans le domaine de la justice, il a nommé un juge de la Cour suprême très conservateur et d'avoir approuvé le budget du département de la défense et l'économie. Il y a eu une croissance pas très grande, une croissance des emplois doit une bourse stable et quelques industries qui ont accepté de ne pas construire des usines à l'extérieur du pays. Mais ce n'est pas beaucoup en réalité. Particulièrement important, ça a été la démolition des accomplissements de Barack Obama. Plutôt que la mise en place de nouvelles politiques, la base électorale de Trump n'a jamais complètement accepté Barack Obama comme président parce qu'il était noir. Trump disait toujours que Obama était né dans l'Afrique.
Ce qui explique aussi le bilan peu impressionnant de Donald Trump un an après son élection, c'est le fait qu'il enregistre de nombreux échecs législatifs.
Les grandes lignes de l'agenda de Trump n'ont pas été approuvées jusqu'à maintenant. Il y a Obamacare et ça a été une bataille royale ici aux États-Unis. Trump a perdu dans le Congrès. Les républicains, même qui ont la majorité, n'ont pas réussi à l'éliminer.
Sur les grands axes de sa politique, hein, il n'a pas réussi donc à abroger l'Obamacare et également l'immigration. Le mur n'est pas construit et le travel ban a rencontré de sacrées levées de boucliers.
Il utilise son pouvoir de gouverner par des quand il ne peut pas obtenir une victoire législative. Le bloc de l'arrivée de personnes de certains pays islamistes, il a eu des défaites très, très graves dans les tribunaux. Le président perd beaucoup de temps, des polémiques, des insultes, avec des thèmes qui ne sont pas très importants.
Emilio Viano, professeur de sciences politiques à l'American University, ici à Washington. Concernant l'Afrique, l'administration du président Donald Trump a demandé à son homologue congolais Joseph Kabila de quitter le pouvoir après les élections annoncées pour décembre 2018, selon un communiqué du département d'État qui salue la publication du calendrier électoral. Eddie Isango a joint l'ancien sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines Herman Cohen.
Aux Nations Unies, au mois de septembre, il a fait un déjeuner à l'honneur de chaque chef d'État africain qui était présent. Et dans son discours, il a dit qu'il y a deux grandes crises en Afrique en ce moment, Sud-Soudan et la RDC. Et il a dit qu'il envoyait Mme Nikki Haley, notre ambassadeur auprès de l'ONU, pour visiter ces deux pays. Ce qu'elle a fait.
Mais avant cela, il y a eu par deux fois des sénateurs qui ont écrit à M. Trump pour lui demander de s'occuper de la question de la RDC. Ce n'est pas parce qu'il y a eu pression des sénateurs?
Non, je crois que le Bureau des Affaires africaines est en bonne main et ils ont donné des recommandations aussi. Et les sénateurs, presque tout le monde dans le gouvernement des États-Unis, soit le Parlement, soit l'administration, sont d'accord que le président Kabila doit partir, doit quitter le pouvoir. Il faut qu'il y ait une élection démocratique. La politique n'a pas vraiment changé depuis Obama.
Est-ce que vous pensez que c'est par la pression des États-Unis que la CENI qui parlait des 504 jours a fléchi? Est-ce que vous pensez que la pression des États-Unis est suffisante?
C'est une victoire pour Mme Haley. Mais en même temps, Mme Haley a dit qu'il faut qu'il y ait une élection tôt dans l'année 2018. Comme c'est tard, c'est une déception. Mais quand même, je crois que Mme Haley a fait une ligne rouge. Il faut qu'il y ait une élection démocratique. Il ne faut pas que le président Kabila se représente comme candidat. Et il faut que tout le monde soit éligible, y compris les prisonniers politiques et les gens comme Moïse Katumbi qui sont en exil. Donc s'il y a encore de la glissement, il y aura des sanctions plus hautes, je suis sûr.
Ces élections sont prévues à la fin de décembre, autour de la Noël. Est-ce que maintenant vous pensez que c'est faisable ou la CENI et les autorités congolaises ont fait ça seulement pour plaire un peu à la communauté internationale aux États-Unis afin de baisser la tension?
C'est pas impossible, c'est pas impossible. Mais s'il n'y a pas vraiment l'action et qu'il n'y a pas de vraie préparation pour l'élection, les États-Unis, l'Union européenne, la France, Belgique vont se fâcher bientôt. Donc, le président Kabila est averti qu'il ne faut pas faire des bêtises. Il faut faire une élection et il faut qu'il quitte le pouvoir.
Herman Cohen, l'ancien secrétaire d'État adjoint américain aux affaires africaines. aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Jimmy Cook. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction et Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.